Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les syndromes d'Ehlers dans l'os et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Gisclard, atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, patiente experte ressource et représentante des usagers de santé et présidente de l'UNSED, l'Union nationale des syndromes d'Ehlers dans l'os, qui est une association de patients. Madame Gisclard, bonjour.
Bonjour.
Alors Madame Gisclard, ma première question est très simple, on va commencer par le début. Comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie chez vous ?
Alors, il faut d'abord comprendre ce que sont les syndromes d'Ehlers dans l'os. Ce sont donc des maladies génétiques rares avec lesquelles nous, malades, nous naissons. Elles évoluent de forme frustre à des formes parfois très sévères. Alors moi, pour ma part, j'étais une petite fille qui était toujours fragile. Mais quand je revois des photos lorsque j'avais 3 ans, on voit déjà très bien mes récurvatums de genoux qui sont bien là. J'ai compris donc très tard que je remettais spontanément mes subluxations et fixations toutes seules. Car quand ça bloque, que ça fait mal, on tire sur notre articulation, nous-mêmes, et elle se remet en place. Et comme m'a dit un jour un urgentiste, en remettant une fixation d'épaule, ça tourne très bien chez vous. Voilà, donc à chaque opération, eh bien, j'avais des complications, des hématomes, une mauvaise cicatrisation, une hémorragie, une mauvaise récupération post-anesthésie, des déchirures ligamentaires, musculaires. Et en fait, c'est l'endométriose sévère que j'avais qui a masqué mon syndrome d'Ehlers dans l'os, avec des douleurs, une asthénie, diverses opérations. Et puis, eh bien, la maladie a progressé et on s'est bien rendu compte qu'il y avait autre chose. Et c'est là que l'errance diagnostique a commencé vraiment.
Alors, une errance diagnostique, mais au final, comment est-ce que vous avez été diagnostiquée et comment vous avez vécu à la fois cette période de latence et l'annonce du diagnostic ?
Écoutez, pendant 4 ans, j'ai eu une errance de diagnostic. Je suis devenue une patiente, comme on appelle souvent, chronophage, qui irait de spécialiste en spécialiste, avec jamais rien de probant. Et j'entendais régulièrement, écoutez, c'est dans votre tête, vous êtes peut-être dépressive, comment ça se passe à la maison, mettez vos sports, prenez des antidépresseurs, etc. Et puis vous, pendant ce temps, on a notre vie sociale, professionnelle, personnelle qui se détériore. Et moi, j'aurais pu tout perdre, comme la plupart des patients qui sont en errance diagnostique. Heureusement que mon mari et mes enfants ont fait bloc autour de moi, car la société, elle, ne vous loupe pas. Effectivement, sans nom de la maladie, on n'existe pas. On vous enfile une camisole de force et puis on perd confiance. Une espèce de bulle pour ne pas sombrer. On nous fait douter, mais nous, on sait très bien qu'il y a un souci. Et avec des examens aussi qu'on nous fait passer qui sont souvent invasifs, inutiles, répétitifs. Effectivement, ce sont beaucoup de frustrations et de souffrances inutiles. Et puis, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un médecin MPR sur mon chemin à Perpignan qui ne m'a jamais lâché. Il me disait que pour lui, c'était certainement un souci de tissu conjonctif et qu'il finirait par trouver. Il avait toujours un dossier rouge très épais posé sur son bureau. C'était le mien. Voilà. Un jour, il a fini par trouver. Il m'a appelé. Il m'a dit, voilà, vous avez un SED hypermobile. Vous savez quoi, au final, je me fichais bien de ce nom. Cela aurait pu être finalement la maladie de Parkinson. Moi, ce que je voulais savoir, c'est un nom. C'est comprendre pourquoi ma vie partait en vrille. Et la première chose que je me suis dit, je dis, enfin, je vais pouvoir enlever cette camisole de force. Je ne suis pas folle. Voilà, alors on relève la tête et puis ensuite on passe par des sentiments différents. C'est un petit peu comme un deuil finalement. On a beaucoup de colère, moi j'avais beaucoup de colère, je savais bien que j'étais pas folle. Et puis du soulagement, de l'inquiétude. Et je fais quoi maintenant avec cette maladie que peu de personnes connaissent finalement ?
Alors, il y a quelques années, Madame Gisclard, vous avez créé l'association UNSED, l'Union nationale des syndromes d'Ehlers dans l'os, que vous présidez.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à effectuer cette démarche ?
Écoutez, une fois le nom posé, j'ai galéré, j'avais peu d'informations. Les centres dédiés mis en place, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas vraiment de traitement, pas de littérature fiable. Parfois, elle était même souvent contradictoire. Alors, avec mon mari, on a créé une association locale. Et très vite, on a compris qu'il fallait qu'on travaille avec les filières maladies rares, les centres de référence. Et grâce à un bureau efficace et deux vice-présidents très dynamiques à mes côtés, on a d'abord obtenu l'agrément du ministère de la Santé au bout de 5 ans d'existence. Et puis, on s'est mis à travailler avec des hautes instances, finalement, pour que ça redescende très vite en cascade sur le terrain et que cela devienne pérenne pour tous. Donc, on a commencé à travailler avec le ministère de la Santé aussi. Il fallait mettre en place des centres de compétences en région qui étaient inexistants, aider à faire rédiger le PNDS, inexistant également, qui servirait de base pour la prise en charge des patients saines non vasculaires. Le PNDS, c'est le protocole national diagnostique et soins. Il fallait aussi mettre en place une carte d'urgence. En fait, il y avait tout à construire. C'est aussi un changement de filière lors du plan national de maladies rares, le troisième. Et c'est la filière Oscar qui s'est engagée à faire son maximum. Et elle le fait aujourd'hui en collaboration avec nos centres de référence et de compétences. Et puis puis ensuite, c'est beaucoup de téléphone également, d'accompagnement. Il faut apprendre à fermer les portes du passé pour se concentrer sur le présent, tout en préparant l'avenir et garder l'espoir.
Alors, lors de la préparation de notre entretien, vous nous avez indiqué avoir passé votre diplôme pour être patiente experte et pour notamment promouvoir l'éducation thérapeutique des patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Ah oui, c'était une évidence pour moi. Cela m'a permis de conforter l'aide apportée aux malades. Alors, je suis devenue donc patient expert diplômée, patient témoin aussi si nécessaire, qui sont deux choses différentes. J'essaye aussi de développer chez les autres des aptitudes qui leur correspondent à eux et à eux seuls. C'est aussi accompagner tout en faisant prendre conscience à l'autre de ses ressources, car la vie ne s'arrête pas avec un syndrome d'alerte dans l'autre, quel que soit le type d'alerte dans l'autre. C'est important de comprendre, tiens, qu'est-ce que je sais de ma maladie, qu'est-ce que je sais des traitements, est-ce que je finirai un jour dans un fauteuil roulant. Voilà, tout ça, c'est des questions qui nous turlupinent tout le temps. Donc, il faut aller chercher ces réponses au fond de soi. Et puis, c'est l'ETP. L'ETP est essentiel pour nos maladies rares sans réel traitement. L'éducation thérapeutique, ça permet de vivre soi-même au mieux de sa maladie, mais aussi c'est d'accompagner les conjoints, les aidants familiaux, la fratrie. Car dans une même famille, il peut y avoir plusieurs malades et de formes plus ou moins évoluées. Il y a aussi la culpabilité de la transmission et puis tellement d'appréhension face à l'inconnu. Et cela me donne aussi à titre personnel une crédibilité, car nous ne sommes pas des médecins, nous ne remplaçons pas une consultation médicale dans les associations de patients. Mais avec cette formation et ce diplôme, nous sommes devenus plus responsables finalement. C'est être un petit peu comme une locomotive pleine de positivité et de bienveillance. Voilà, ça nous permet aussi de faire le lien entre le malade et l'équipe médicale, et cela peut permettre de définir un programme personnalisé pour le patient à venir. Voilà.
Et justement, au sein de l'UNCED, quels sont les objectifs de l'association ?
Alors, tout d'abord, notre objectif est de sensibiliser l'ensemble des acteurs scientifiques, médecins, paramédicaux, ainsi que le grand public aux manifestations cliniques invalidantes, au handicap et à la détérioration de la qualité de vie qu'entraînent les syndromes d'alerte dans l'os non vasculaire. On s'attache aussi à réunir des dons et des subventions afin de financer des projets de recherche visant à apporter des avancées dans la compréhension, dans le diagnostic et le traitement des syndromes de l'os. Nous avons aussi été très heureux que notre financement ait pu aider à la découverte d'un gène très rare, bah, de 6 ans. Et encore plus heureux quand un papa a pris contact avec nous dernièrement. Son fils était le premier à être diagnostiqué en France grâce à la découverte de ce gène. Donc on était très heureux, autant eux que nous, bah, et bien d'en discuter, de faire connaissance. Et puis nous travaillons également avec les deux autres associations nationales en nous réunissant tous les premiers mercredis du mois. C'est une complémentarité essentielle. Voilà, c'est l'union, c'est se coordonner, nous sommes tous complémentaires.
Très bien. Alors, on arrive à la fin de notre entretien, Madame Giscard. Quel message est-ce que vous souhaiteriez faire passer aux patients concernés ou aux soignants concernant ces syndromes d'Ehlers dans l'os ?
Écoutez, à ce jour, nous rencontrons encore beaucoup de médecins dubitatifs sur l'existence même de nos syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire. Et on entend souvent « Ah oui, la maladie à la mode. Ah oui, c'est comme la fibromyalgie. » Nous pouvons parler de maltraitance parfois, voilà, de la méconnaissance. Ah oui, c'est la peau, vous savez, qui est hyper extensible et contorsionniste. Ou bien on peut entendre aussi « C'est juste une maladie banale, articulaire. » Et non, nous ne sommes pas tous pareils, rien n'est banal avec nous. Écoutez-nous, car les stades non vasculaires ont de nombreuses comorbidités, asthénie, handicap, invalidité associée. Il faut bien comprendre qu'éternuer, c'est subluxer une côte. Bailler, c'est luxer la mâchoire. Enfiler un pull, c'est luxer une, voire les deux épaules en même temps. Prendre un enfant par la main pour lui faire traverser la route, et vous pouvez lui luxer le poignet, le cou et l'épaule. C'est ça notre quotidien. Et donc, ma normalité n'est pas la normalité. J'aimerais aussi vous dire, servez-vous du PNDS. Faites-nous confiance. Nous nous connaissons très bien, souvent par cœur. Ne minimisez pas les symptômes qui parfois peuvent peut-être vous faire passer à côté d'une autre maladie. Moi, on a essayé de zapper ma leucémie car on mettait tout sur le dos du fait d'hypermobile à tort. Voilà, nous patients, apprenons à comprendre le fonctionnement de nos corps. On essaye de positiver le négatif et puis on doit en faire une force. Toutes les maladies chroniques sont difficiles à vivre, tous les jours. Nous passons beaucoup de temps à nous battre aussi contre de l'administratif au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, notre santé. Et vous, médecins traitants, spécialistes comme les MPR, internistes, rhumatos, algologues, kinés, vous êtes nos meilleurs soutiens sur le terrain pour dépister un éventuel syndrome d'alerte dans l'os et l'orienter vers nos filières, centres de référence et de compétences. Il faudra aussi faire évoluer les mentalités, car ensemble, nous pourrons enfin faire avancer La rapidité du diagnostic, c'est aussi mettre en place des prises en charge adaptées. C'est une nécessaire pour tous, un bénéfice pour chacun de nous en collaborant ensemble. Et je terminerai tout simplement, écoute, empathie, bienveillance, ce sont des belles philosophies, mais surtout, continuons de sourire à l'aide.
Eh bien, merci infiniment Madame Gisclard pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître ces syndromes d'Ehlers dans l'os. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à ces syndromes. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite.